Chers frères et sœurs, chers amis, nous avons du mal à le croire, mais nous sommes déjà au dernier jour de notre neuvaine. Et avant de célébrer l'Eucharistie ensemble tout à l'heure, ce dernier entretien, appuyé sur le texte que le pape François nous a offert le 15 octobre dernier, sur la confiance à l'école de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, nous oriente ce soir, à partir de la fin du texte du pape François, vers ce qui est le cœur du message de Thérèse. Et le cœur du message de Thérèse, c'est une évidence, mais il est bon de se le rappeler, c'est le cœur de l'Évangile. C'est la miséricorde. L'apport de Thérèse, écrit le pape François, est précisément d'être revenu au centre et de nous avoir rappelé que, comme le Saint-Père l'écrit dans un autre texte, la miséricorde est le visage du Père. La miséricorde est le visage de Dieu. Pour Thérèse, cette miséricorde a été quelque chose de très concret qu'elle a expérimenté chaque jour de sa vie. Alors, ce soir, nous nous mettons à son école pour découvrir à notre tour la miséricorde. C'est la miséricorde divine qui a permis à Thérèse, lorsqu'elle s'affrontait à l'ordinaire de son quotidien, exactement comme chacun de nous, certes dans un état de vie particulier, celui d'une carmélite, mais dans le quotidien de sa vie, c'est la miséricorde qui lui a permis de pouvoir recevoir du Seigneur la grâce de la sainteté qu'il désirait pour elle, comme il la désire pour chacun de nous. Dieu désire que nous soyons saints, c'est-à-dire que nous soyons unis à lui chaque instant de notre vie. Que nous soyons saints, c'est-à-dire que nous laissions la grâce de notre baptême se déployer dans notre vie entière. Thérèse, elle, a découvert d'une manière particulièrement lumineuse qu'elle serait sainte, non pas en forgeant à la force du poignet sa sainteté, mais en ouvrant les mains pour recevoir, par la grâce de la miséricorde divine, la sainteté que Dieu voulait pour elle. Nous le savons bien, sur le chemin de notre vie chrétienne, notre engagement, notre détermination, nos efforts sont nécessaires, sont indispensables. Mais parfois, nous courons un risque, c'est de croire que nos efforts vont nous permettre de saisir la grâce de Dieu, d'attraper, d'accrocher la sainteté. Or, autant il est nécessaire de faire tout ce qui dépend de nous, autant il est indispensable de ne pas chercher à attraper la grâce de Dieu, mais d'ouvrir les mains pour accueillir la grâce de Dieu. Thérèse, vous savez, dans son itinéraire, bien sûr, elle avait entendu parler de Dieu miséricorde, exactement comme nous, mais un jour, cette miséricorde dont elle avait entendu parler et dont elle vivait déjà, comme nous en vivons nous aussi déjà, est devenue une expérience qui a bouleversé le fond de son cœur. Elle le raconte à la fin du manuscrit A de l'Histoire d'une âme, à la fin de la première partie de l'Histoire d'une âme. Ça s'est passé un jour pendant la messe, le dimanche de la Trinité. C'était cette année-là, le 9 juin 1895. Je souligne que Thérèse était déjà carmélite depuis 7 ans et qu'elle n'avait plus que 2 années à peine à vivre. Alors, vous me direz, ça s'est passé quand elle était très jeune, elle avait 22 ans. Oui, c'est vrai, mais regardons que ça s'est passé 2 ans à peine avant la fin de sa vie. Je crois que ça ouvre une espérance pour nous tous, de façon de nous dire que nous ne sommes jamais arrivés au bout sur notre chemin de foi et où que nous en soyons parvenus, ne cédons jamais au découragement puisque même les plus grands saints ont fait des expériences bouleversantes alors qu'il ne leur restait plus que 2 années à vivre. Ce dimanche-là, la miséricorde entre dans le cœur de Thérèse. Elle nous raconte elle-même ce qui s'est passé. Cette année, le 9 juin, fête de la Sainte Trinité, j'ai reçu la grâce de comprendre plus que jamais combien Jésus désire être aimé. Ô mon Dieu, m'écriai-je au fond de mon cœur, n'y aura-t-il que votre justice qui recevra des âmes s'immolant en victime? Votre amour miséricordieux n'en a-t-il pas besoin lui aussi? Ô mon Jésus, que ce soit moi cette heureuse victime. Consumez votre holocauste par le feu de votre divin amour. Ah, depuis cet heureux jour, il me semble que l'amour me pénètre et m'environne. Il me semble qu'à chaque instant cet amour miséricordieux me renouvelle, purifie mon âme et n'y laisse aucune trace de péché. Pourquoi Thérèse nous dit-elle que, dans sa prière, elle dit au Seigneur, « N'y aura-t-il que votre justice qui recevra des âmes s'immolant aux victimes ?» C'est parce que, particulièrement dans le contexte dans lequel elle vivait, mais pas que, il était courant pour des chrétiens, particulièrement pour des personnes consacrées dans la vie religieuse, particulièrement pour des moniales, de s'offrir à la justice divine. C'est une offrande qui a permis la sanctification de très nombreuses personnes. Le fond de cette offrande, c'était que je désire intercéder pour les pécheurs. Je désire faire quelque chose pour le salut des pécheurs. Et avec un langage qui n'est pas exactement celui de l'Évangile, mais qui est celui d'une certaine tradition spirituelle, les pécheurs ont mérité un châtiment. Alors ces personnes, voulant œuvrer pour le salut des pécheurs, s'offraient à la justice de Dieu pour, d'une certaine manière, être elles-mêmes la victime de cette justice, afin que le pécheur soit délivré des conséquences de son propre péché et puisse accueillir le salut de Dieu. C'est une offrande méritoire qui a sanctifié de très nombreuses personnes. Mais Thérèse, elle, je le disais en commençant, a le désir de retourner au cœur de l'Évangile. Et elle sait que si Dieu est juste, si la justice est un attribut de Dieu, la miséricorde est aussi un attribut de Dieu. Et plus encore, si l'on peut se permettre de parler ainsi, que de faire justice, Dieu désire faire miséricorde, ou plus exactement, c'est en faisant miséricorde que Dieu est véritablement juste. La miséricorde et la justice ne sont pas contradictoires. C'est en faisant miséricorde que Dieu est véritablement juste. Alors Thérèse, elle, s'offre à la miséricorde. Au passage, vous avez peut-être remarqué que Thérèse nous livre la clé de la grâce qu'elle reçoit ce dimanche de la Trinité 1895, en disant « J'ai compris plus que jamais combien Jésus désire être aimé. » Il faut compléter la phrase, que Thérèse me le permette, j'espère et je crois ne pas la trahir. « J'ai compris plus que jamais combien Jésus désire être aimé, bien plus qu'il désire être craint. » Jésus désire être aimé, sous-entendu, bien plus qu'il désire être craint. Dieu attend de nous notre amour, bien plus qu'une crainte servile. Il attend de nous la crainte des enfants de Dieu, ceux qui n'ont pas peur du châtiment, mais qui ont peur de faire de la peine à leur Père. Jésus désire être aimé. Il faut se figurer que ce jour-là, tout ce que j'essaye de déployer un petit peu et que Thérèse nous raconte dans l'histoire d'une âme, tout cela s'est passé en un instant. Pendant la messe, le Seigneur fait cette révélation à Thérèse. Au plus profond de son cœur, elle comprend. Jésus désire être aimé. Elle comprend alors que, dans la relation avec Dieu, le cœur, c'est l'amour. Dans la relation à Dieu, le centre, c'est Dieu lui-même. Cela ne veut pas dire que moi je ne suis pas important, mais c'est Dieu qui est au centre. Jésus désire être aimé. C'est pour cela que, dans le récit qu'elle nous fait, Thérèse se centre sur la personne de Jésus. Jésus désire être aimé. Est-ce que nous avons déjà pensé à cela ? Moi, je désire aimer Jésus. Moi, je désire aimer Dieu. Nous pensons certainement très souvent à cela. Mais avons-nous déjà pensé que Jésus désire être aimé de nous ? Jésus attend quelque chose de nous. Ce n'est pas une affabulation, une invention de Thérèse, au passage. Très souvent dans l'Évangile, nous découvrons que Jésus demande quelque chose de nous, qu'il attend quelque chose de nous. Au Carmel, un passage de l'Évangile qui nous touche beaucoup et qui illustre magnifiquement cela, un passage qui était très cher à Sainte Thérèse d'Avila et aussi à Thérèse de Lisieux, c'est la rencontre de Jésus avec la femme samaritaine, dans le chapitre 4 de Saint Jean. Vous vous souvenez, dans ce passage de l'Évangile, la femme samaritaine, évidemment, elle va au puits parce qu'elle a soif et qu'elle désire puiser de l'eau. Mais qu'est-ce qu'elle découvre au bord du puits ? C'est que Jésus, cet homme qu'elle va reconnaître comme un prophète et comme le sauveur du monde, attend quelque chose d'elle aussi. Désire quelque chose qu'il lui demande. De l'eau. Et l'eau, bien sûr, c'est le symbole, c'est le signe de son amour. Jésus désire être aimé. Pensons souvent à cela. Jésus désire être aimé de moi, de chacun de nous, non pas d'une façon vague, mais d'une façon concrète. Thérèse, lorsqu'elle fait cette expérience, elle découvre que dans le cœur de Jésus, il y a cet amour miséricordieux qui désire se donner. Alors la réponse de Thérèse à l'amour de Jésus, c'est l'offrande d'elle-même. « Je m'offre comme victime à votre amour. » Le mot « victime », il peut être un petit peu difficile à comprendre. Dans la logique biblique, la victime d'Holocauste, c'est ce qui est offert entièrement, sans réserve, mais bien sûr librement, avec le consentement de la personne qui s'offre. Thérèse, lorsqu'elle dit « Je m'offre en victime à votre amour », elle veut dire « Librement, je m'offre à vous, ô mon Dieu, entièrement, sans rien garder pour moi. » Depuis cet heureux jour, il me semble que l'amour me pénètre et m'environne. Il me semble qu'à chaque instant, cet amour miséricordieux me renouvelle, purifie mon âme et n'y laisse aucune trace de péché. À partir de ce jour, l'amour miséricordieux devient le visage de Jésus pour Thérèse. Quand elle pense à lui, elle voit son visage de miséricorde. Quel visage voyons-nous lorsque nous pensons à Dieu ? Quel visage voyons-nous lorsque nous pensons à Jésus ? Peut-être qu'à l'époque de Thérèse, et plaise à Dieu que ce ne fût qu'à son époque, quand on pensait à Dieu, à Jésus, on risquait de voir un visage sévère, un visage courroucé, un visage de justicier. Thérèse, elle, lorsqu'elle pense à Dieu, à Jésus, elle voit le visage de la miséricorde. Alors cette expérience va lui permettre de prendre conscience que, en fait, depuis l'instant de sa naissance, toute sa vie a été enveloppée par la miséricorde de Dieu. Elle réalise que, depuis toujours, elle a été enveloppée par ce mystère de l'amour miséricordieux de Jésus. Vous savez, au cours de cette année 1895, au cœur de cette année, elle fait cette expérience profonde de la miséricorde au mois de juin. Mais en fait, depuis le début de l'année, depuis le mois de janvier, elle était en train d'écrire ses souvenirs d'enfance, qui sont devenus, en quelque sorte, son autobiographie spirituelle. Et finalement, de faire au cœur de cette année où elle relit sa vie, où elle écrit en quelque sorte son autobiographie spirituelle, de faire au cœur de cette année cette expérience bouleversante de la miséricorde, va lui permettre de relire sa vie entière à la lumière de la miséricorde. Dans l'introduction de l'histoire d'une âme, elle écrit « En racontant ma vie, je ne vais faire qu'une seule chose, commencer à chanter ce que je dois redire éternellement, les miséricordes du Seigneur. C'est amusant au passage parce que, en fait, elle avait commencé à écrire le début de l'histoire d'une âme parce que sa sœur aînée, Pauline, mère Agnès, carmélite comme elle, qui était sa prieure à ce moment-là, lui avait demandé d'écrire ses souvenirs d'enfance. Et en fait, Thérèse commence à écrire ses souvenirs d'enfance par obéissance, mais dans un coin de sa tête ou dans un coin de son cœur, elle a bien dû se demander qu'est-ce que ça peut bien faire qu'une carmélite écrive ses souvenirs d'enfance. Et cette expérience de la miséricorde transforme d'une certaine manière la réponse que Thérèse donne à sa sœur. C'est comme si elle lui disait « Vous m'avez demandé d'écrire mes souvenirs d'enfance, c'est bien gentil, mais par la grâce de Dieu, je vais plutôt vous écrire les souvenirs de l'œuvre de Dieu dans ma vie, depuis mon enfance et jusqu'à maintenant. » Et les souvenirs de l'œuvre de Dieu dans ma vie, eh bien, avec les mots du psaume 88, c'est chanter les miséricordes du Seigneur. Oui, si elle parle d'elle-même dans l'histoire d'une âme, ce n'est pas pour raconter sa propre vie, c'est pour raconter les miséricordes de Jésus dans sa vie. Comme elle nous l'a dit tout à l'heure, le centre, c'est Jésus. Et puis dans l'introduction de l'histoire d'une âme, Thérèse poursuit en disant, avant de prendre la plume pour commencer à écrire, je me suis agenouillée devant la statue de Marie. C'est la statue de la Vierge du Sourire qui se trouvait près de sa cellule. Je l'ai suppliée de guider ma main afin que je ne trace pas une seule ligne qui ne lui soit agréable. Ensuite, ouvrant le Saint-Évangile, mes yeux sont tombés sur ces mots. C'est au chapitre 3 de saint Marc. Jésus étant monté sur une montagne, il appela à lui ce qui lui plut et ils vinrent à lui. Et Thérèse poursuit, « Voilà bien le mystère de ma vocation, de ma vie tout entière, et surtout le mystère des privilèges de Jésus sur mon âme. Il n'appelle pas ceux qui en sont dignes, mais ceux qui lui plaît, ou comme le dit saint Paul, elle s'appuie toujours sur l'Écriture, « Dieu a pitié de qui il veut, et il fait miséricorde à qui il veut faire miséricorde. » C'est dans le chapitre 9 de la lettre aux Romains. Dieu a pitié de qui il veut, et il fait miséricorde à qui il veut faire miséricorde. Voilà bien la façon dont Jésus vient nous rencontrer. Parce qu'il le veut. Parce qu'il veut nous faire miséricorde. Autrement dit, il ne vient pas à nous parce que nous sommes des héros, mais il vient rencontrer les personnes réelles que nous sommes. Dire, comme le dit saint Paul dans la lettre aux Romains, comme le reprend Thérèse, que Dieu a pitié de qui il veut, que Dieu fait miséricorde à qui il veut faire miséricorde, ça ne veut pas dire que Dieu serait un personnage capricieux qui fait miséricorde à qui il veut, qui se donne à qui il veut de façon arbitraire. Non, ça veut dire qu'il se donne à nous de manière libre, sans chercher à compter nos mérites, nos bonnes actions ou quoi que ce soit. Il se réjouit de tout ce que nous faisons de bien. Mais ce que nous faisons de bien ne sert jamais de monnaie d'échange pour acheter le don de Dieu. Et Dieu n'attend pas que nous ayons atteint une certaine quantité de bonnes actions ou de mérites pour se donner à nous. Il se donne à nous parce qu'il le veut, librement, gratuitement. Il ne nous fait pas miséricorde parce que nous mériterions quoi que ce soit, mais parce que librement, gratuitement, il le veut. Il désire se donner, faire miséricorde parce qu'il le veut, sans autre raison. C'est gratuit. C'est sa pure grâce. Alors Thérèse, par ce qu'elle nous dit, par l'expérience qu'elle a faite, elle reçoit et elle nous transmet une double lumière, une lumière sur Dieu et une lumière sur elle-même, sur nous-mêmes. D'abord, une lumière sur qui est Dieu en lui-même. Qui est Dieu pour Thérèse ? À la lumière de ce qu'elle vient de nous dire, nous comprenons que, pour elle, Jésus est celui qui désire être aimé d'elle. Jésus est celui qui désire lui faire miséricorde. Et à nous, c'est exactement pareil. Et puis cette expérience de la miséricorde lui donne aussi une lumière sur elle-même. Thérèse est, je suis, chacun de nous est une personne à qui Jésus désire faire miséricorde. Et ce qu'il attend de nous, c'est surtout un cœur ouvert, des mains ouvertes pour l'accueillir. Certes, il attend que nous fassions tout ce qui dépend de nous pour mener une vie chrétienne sérieuse, pour accomplir notre devoir d'État, pour aimer Dieu et notre prochain. Et il n'attend pas que nous soyons de nous des personnes exceptionnelles. Il suffit que nous soyons tels que nous sommes en nous tenant devant lui les mains ouvertes. Thérèse va jusqu'à dire que la miséricorde, c'est ce à travers quoi elle voit toutes les perfections de Dieu. Dieu a une infinité de perfections. Il est bon, il est grand, il est tout-puissant, il est aimant. Et Thérèse dit, « À moi, il a donné sa miséricorde infinie. Et c'est à travers elle que je contemple et adore les autres perfections divines. Alors toutes les perfections divines m'apparaissent rayonnantes d'amour. La justice même, et peut-être encore plus que tout autre, me semble revêtue d'amour. Quelle douce joie de penser que le bon Dieu est juste, c'est-à-dire qu'il tient compte de nos faiblesses, qu'il connaît parfaitement la fragilité de notre nature. De quoi donc aurais-je peur ? » Thérèse n'oublie pas les autres perfections de Dieu, la justice et toutes les autres, mais tout est revêtu de l'amour miséricordieux. Et au passage, voir la justice elle-même à travers le prisme de l'amour miséricordieux lui permet de bien comprendre ce qu'est vraiment la justice. Qu'est-ce que c'est que la justice de Dieu ? Parfois, quand nous pensons à la justice de Dieu, cela peut nous conduire à nous représenter Dieu comme un justicier, quelqu'un qui viendrait nous demander des comptes. Mais ce n'est pas cela. Dire que Dieu est juste, cela veut dire que Dieu nous connaît tels que nous sommes, qu'il connaît nos faiblesses et qu'il nous fait miséricorde. Dire que Dieu est juste, ça ne veut pas dire qu'il est un justicier, ça veut dire qu'il nous justifie. Dire que Dieu est juste, ça veut dire qu'il nous justifie. Alors tout cela nous invite à la confiance. En fait, quand Thérèse découvre la miséricorde, ce jour de 1895, elle découvre au fond de son cœur ce dont la Bible ne cesse de nous parler, la révélation de Dieu, la miséricorde qui nous appelle à une confiance inconditionnelle. Mais puisque Dieu est miséricorde, puisque Dieu désire nous donner sa miséricorde, comment allons-nous accueillir cette miséricorde ? Comment ? Thérèse nous dit que le premier pas, c'est de grandir dans la vérité, de reconnaître humblement sous le regard de Dieu où nous en sommes dans notre vie. Dans une de ses prières, qu'elle a composée 2 jours après cette grande grâce du 9 juin 1895, prière qui s'appelle « Offrande de moi-même à l'amour miséricordieux », dans cette prière, Thérèse dit à Dieu « Toutes nos justices ont des taches à vos yeux. » Tout ce que nous faisons de bien, et ce n'est pas à cause de notre péché, a des taches aux yeux de Dieu. Parce que nous ne sommes pas Dieu, parce que nous n'accomplissons jamais les choses avec une perfection totale, avec une perfection divine. Nous ne sommes pas Dieu. Et quoi que nous fassions, nous ne pouvons jamais croire que nous mériterions par nos propres forces le salut de Dieu. Au passage, ce serait dramatique parce que si nous y arrivions, ça voudrait dire que nous n'aurions plus besoin de sauveur et nous serions les plus tristes des personnes humaines. Mais nous ne pouvons jamais rien faire qui soit à la hauteur de Dieu. Mais évidemment, cela ne doit pas être une source de désespérance, de découragement. Au lieu de croire que nous pourrions franchir par nous-mêmes l'abîme qui nous sépare de Dieu, il faut nous laisser rejoindre par Jésus. L'incarnation, c'est cela. Il y a un abîme qui nous sépare de Dieu, parce que nous sommes une créature en face de son Créateur, et par le mystère de l'incarnation, Dieu lui-même a franchi l'abîme. Il faut nous laisser rejoindre par Jésus. La seconde attitude à laquelle Thérèse nous invite, c'est de bannir la crainte, de grandir dans la confiance, espérer en la miséricorde de Dieu. Nous ne craignons pas Dieu, qui n'est pas un justicier mais qui nous justifie. Nous ne craignons pas non plus notre propre faiblesse, ni même notre propre péché. Souvent, la plus grande tentation qui nous menace, c'est la désespérance face à notre péché. Je suis encore retombé dans le même péché. Eh bien non, cela ne doit jamais être une occasion de désespérer, mais plutôt une occasion supplémentaire de grandir dans la confiance. Dans une de ses lettres à un jeune séminariste dont le parcours spirituel n'était pas facile et qui était devenu son frère spirituel, l'abbé Bélière, Thérèse écrit « Ah, mon cher petit frère, depuis qu'il m'a été donné de comprendre l'amour du cœur de Jésus, je vous avoue qu'il a chassé de mon cœur toute crainte. Le souvenir de mes fautes m'humilie, me porte à ne jamais m'appuyer sur ma force, qui n'est que faiblesse, mais plus encore, ce souvenir de mes fautes me parle de miséricorde et d'amour. Comment, lorsqu'on jette ses fautes avec une confiance toute filiale dans le brasier dévorant de l'amour, comment nos fautes ne seraient-elles pas consumées sans retour ? Alors, frères et sœurs, nous aussi, remettons, abandonnons notre péché, nos péchés, à la miséricorde de Dieu, en nous jetant dans les bras de Jésus. Alors, au lieu de nous éloigner de Dieu, notre péché deviendra comme un tremplin qui nous rapproche de Dieu. Oui, comme un tremplin, nous rebondirons dessus pour plonger plus profondément dans le cœur de Dieu. Nous nous efforcerons de nous convertir, bien sûr, et toujours aussi, si nous retombons, nous nous jetterons avec confiance dans les bras de Jésus. Pour dire au Seigneur notre désir d'avancer sur ce chemin de la confiance en son amour miséricordieux, en communion avec Thérèse, particulièrement présente au milieu de nous, au moyen de ses reliques, approprions-nous les mots de sa propre prière, de son offrande à l'amour miséricordieux. Ô mon Dieu, Trinité bienheureuse, je désire vous aimer et vous faire aimer, travailler à la glorification de la Sainte Église, en sauvant les âmes qui sont sur la terre et en délivrant celles qui souffrent dans le purgatoire. Je désire accomplir parfaitement votre volonté et arriver au degré de gloire que vous m'avez préparé dans votre royaume. En un mot, je désire être sainte. Mais je sens mon impuissance et je vous demande, ô mon Dieu, d'être vous-même ma sainteté. Afin de vivre dans un acte de parfait amour, je m'offre comme victime d'holocauste à votre amour miséricordieux, vous suppliant de me consumer sans cesse, laissant déborder en mon âme les flots de tendresse infinie qui sont renfermés en vous, et qu'ainsi je devienne martyr de votre amour. Ô mon Dieu, que ce martyr, après m'avoir préparé à paraître devant vous, me fasse enfin mourir, et que mon âme s'élance sans retard dans l'éternel embrassement de votre miséricordieux amour. Je veux, ô mon bien-aimé, à chaque battement de mon cœur, vous renouvelez cette offrande un nombre infini de fois, jusqu'à ce que les ombres s'étant évanouies, je puisse vous redire mon amour dans un face-à-face éternel. Amen.